dans le ventre de ta mère. Au mot ventre, il allait vomir à coup sûr. C'était peut-être la voiture qui le rendait malade. Le mal des transports, se demanda-t-il. Pourtant, Bienvenido conduisait prudemment dans les rues étroites du quartier pauvre, sur la colline dominant Pasig. Dans la cour poussiéreuse de la vieille église, un panneau indiquait « Attention aux chiens ». « À tous les chiens !» halta Juan Diego. Mais Bienvenido était occupé à garer la voiture et Clark à disserter. Personne ne l'entendit. À l'entrée du monastère, au pied d'un Christ en croix, un buisson était parsemé d'étoiles clinquantes. On aurait dit un arbre de Noël du plus mauvais goût. « On subit ces décos merdiques à longueur d'année », entendit-il Dorothy proclamer. Où il imagina qu'elle aurait pu le proclamer si elle avait été présente dans la cour de l'église Notre-Dame de Guadalupe. Mais bien sûr, Dorothy n'était pas là. Seulement sa voix. Entendait-il des voix? Mais ce qu'il percevait par-dessus tout, et qu'il n'avait pas remarqué auparavant, c'était son cœur qui battait à tout rompre. La statue toute de bleu vêtue de Santa Maria de Guadalupe, à demi cachée par les palmiers qui ombrageaient les murs noirs de suie du monastère, avait une expression de calme indéchiffrable, surprenante pour quelqu'un qui avait vécu une histoire aussi funeste. Clark, bien sûr, poursuivait sa narration historique d'un ton professoral, à l'unisson du martèlement puissant du cœur de Juan Diego. Le monastère était fermé, mais Clark conduisit son ancien professeur dans l'église, dont le nom officiel était, précisa-t-il, « Nuestra Señora de Gracia ». Encore une Notre-Dame. « Assez de Notre-Dame !» pensa Juan Diego. Mais il s'abstint une nouvelle fois de parler, essayant de ménager son souffle. La statue de Notre-Dame de Guadalupe avait été apportée d'Espagne en 1604, et c'est en 1629 que l'église et le monastère avaient été achevés. « 60 000 Chinois avaient pris les armes en 1639, » continuait Clark, sans qu'on en connaisse la raison. Mais quand les Espagnols avaient porté la statue sur le champ de bataille, des négociations de paix s'étaient engagées comme par miracle, et il n'y avait eu aucune effusion de sang. « Comme par miracle ? Qui a parlé de miracle ?» se demanda Juan Diego. Il y avait eu d'autres épisodes dramatiques, bien sûr. En 1763, les troupes britanniques avaient pris possession de l'église et du monastère, puis les avaient brûlées et détruites. La statue de Guadalupe avait été sauvée des flammes par un fonctionnaire catholique irlandais. Un fonctionnaire, mais encore. Bienvenido les attendait dans la voiture. Clark et Juan Diego étaient seuls dans l'église, à part deux personnes qui semblaient pleurer un défunt. Elles étaient agenouillées au premier rang devant l'autel sobre et délicat, et la statue fort peu imposante de Guadalupe. Deux femmes vêtues de noir, des pieds à la tête. Clark continua son discours à voix basse par respect pour le défunt. Les tremblements de terre avaient quasiment rasé Manille en 1850. La voûte de l'église s'était effondrée durant les secousses. En 1882, le monastère avait été transformé en orphelinat pour les enfants des victimes du choléra. En 1898, Pío del Pilar, un général révolutionnaire philippin, avait occupé l'église et le monastère avec ses partisans. Il en avait été repoussé par les Américains en 1899, mais y avait mis le feu en s'enfuyant. Le mobilier, les documents et les livres avaient été perdus à jamais. Bon Dieu, Clark! « Tu ne vois donc pas dans quel état je suis ?» hurlait Juan Diego dans sa tête. Il était conscient que quelque chose n'allait pas, mais Clark ne le regardait pas et poursuivait son récit. En 1935, le pape Pie XI avait déclaré Notre-Dame de Guadalupe sainte patronne des Philippines. En 1941, les bombardiers américains n'avaient pas raté leur cible, les soldats japonais qui se terraient dans les ruines de l'église de Guadalupe. En 1995, avait été entreprise la restauration de l'autel et de la sacristie. Clark avait achevé sa narration. Les deux femmes en noir n'avaient pas bougé. Tête baissée, elles étaient aussi immobiles que des statues. Juan Diego essayait toujours de respirer, mais la douleur de plus en plus vive l'obligeait à retenir sa respiration. Inspirez profondément puis de nouveau, bloquez l'air dans ses poumons. Clark French, absorbé par sa propre rhétorique, n'avait toujours pas remarqué la détresse de son ancien professeur. Juan Diego songea qu'il ne pourrait pas énoncer la citation complète du livre de Jérémie 1:5. Il lui restait trop peu de souffle. Il décida de ne dire que la dernière phrase. Il articula à grand-peine « Avant que tu naisses, je t'avais consacré. » « Je préfère « je t'avais sanctifié » à « je t'avais consacré », même si les deux expressions sont correctes », fit remarquer Clark à son ancien professeur avant de tourner les yeux vers lui. Il rattrapa Juan Diego sous les bras, à l'instant où celui-ci s'effondrait. Dans l'agitation qui s'ensuivit, ni Clark ni Juan Diego ne remarquèrent que les deux femmes en noir avaient légèrement tourné la tête vers eux. Elles levèrent leur voile, juste assez pour pouvoir observer les allées et venues dans le fond de l'église. Clark courut chercher Bienvenido, et les deux hommes transportèrent Juan Diego du banc où Clark l'avait allongé jusqu'à la voiture. Dans l'urgence, personne n'avait reconnu Myriam et Dorothy dans ces deux femmes agenouillées au premier rang de l'église mal éclairée. Écrivain, Juan Diego était attentif à la chronologie. Chez lui, le choix du début et de la fin de l'histoire était toujours délibéré. Mais avait-il conscience qu'il était en train de mourir? Il devait s'être rendu compte que la difficulté à respirer et la douleur que cela lui occasionnait ne pouvaient guère provenir du bœuf à la vietnamienne. Mais ce que disaient Clark et Bienvenido lui paraissait particulièrement inconsistant. Bienvenido proférait son mépris pour les hôpitaux d'État crasseux, et bien sûr Clark souhaitait conduire Juan Diego dans celui où travaillait sa femme, où tout le monde connaîtrait le docteur Josefa Quintana et où il recevrait les meilleurs soins possibles. Un heureux hasard, semblait dire son ancien étudiant à Bienvenido, qui venait de lui annoncer que l'hôpital catholique le plus proche de l'église était à San Juan, une banlieue de la métropole à seulement 20 minutes de voiture. Par un heureux hasard, en effet, il s'agissait du centre médical Cardinal Santos, où travaillait Josefa. Pour Juan Diego, les 20 minutes en voiture passèrent comme dans un rêve flou. Rien de concret n'avait de prise sur lui. Et en particulier le Green Hills Shopping Center, voisin de l'hôpital, pas plus que le Wack Wack Golf and Country Club, quel nom bizarre, jouxtant lui aussi le centre médical. Juan Diego ne réagit pas non plus à la présence du crucifix dans la salle des urgences du cardinal Santos, et cela inquiéta d'autant plus Clark. Juan Diego ne semblait pas remarquer les religieuses qui faisaient leur ronde régulière. À l'hôpital cardinal Santos, il y avait toujours un prêtre ou deux sur place le matin, donnant la communion aux patients qui le désiraient. « Mister va se baigner ?» Il croyait entendre Consuelo. Mais la petite fille Onate ne se trouvait pas parmi les visages à l'envers qu'il voyait autour de lui. Pas de Philippin parmi ceux qui le regardaient, et il n'était pas en train de nager. Il marchait sans boiter, enfin. Mais il marchait la tête en bas. Il était le marcheur céleste, à 25 mètres au-dessus du sol. Il avait franchi les deux premiers échelons de cordes, ceux qui lui faisaient le plus peur. Puis, les deux suivants, et deux autres. Encore une fois, le passé l'enserrait, comme les visages à l'envers de ses spectateurs attentifs. Dolores était là. Elle lui disait, « Quand tu marches là-haut pour les vierges, elle te laisse avancer sans te retenir. » Mais la marche céleste n'était pas si compliquée que cela pour le lecteur de la décharge. Les premiers livres qu'il avait lus, il les avait arrachés aux feux infernaux du basurero. Il s'était brûlé les mains en sauvant ses ouvrages des flammes. Que représentaient 16 échelons à 25 mètres au-dessus du sol pour Juan Diego? N'était-ce pas cela la vie qu'il aurait pu avoir, s'il avait été assez courageux pour la saisir? Mais à 14 ans, comment imaginer l'avenir qui nous attend? C'est nous, le miracle, avait tenté de lui dire Lupe. Tu as un autre avenir, avait-elle prédit avec pertinence.